Chers frères et sœurs bien-aimés, chers frères prêtres, ces derniers mois, les révélations successives de scandales commis au sein de l'Église nous ont conduits, les uns et les autres, à vivre l'expérience d'une corrélation critique entre la sacralité du prêtre, ordonné pour agir au nom du Christ, et la sacralité que revêt toute victime aux yeux du Seigneur qui, à travers l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie dont nous faisons mémoire ce soir, se révèle lui-même à la fois comme prêtre et victime. Chez de nombreux catholiques, y compris des prêtres et des évêques, la considération exclusive de la sacralité des victimes devrait provoquer l'Église à remettre en cause la sacralité du prêtre, sous prétexte, affirme-t-il, que cette vision du prêtre conditionne les plus faibles à se laisser abuser, psychologiquement ou corporellement. Toutefois, au-delà de la clairvoyance de ce constat, peut-on véritablement dénier toute sacralité au ministre du Christ ? C'est à cette question que j'aimerais répondre ce soir. Tout d'abord, qu'est-ce que le sacré ? Qu'est-ce que le sacré ? Carl Gustav Jung définit le sacré comme l'expérience affective du lumineux. Autrement dit, le sacré est un affect que l'homme ressent au plus profond de son âme lorsque la présence du divin s'impose objectivement à sa conscience. La Bible, quant à elle, assimile cet affect à la crainte révérentielle, le tremendum que produit dans le cœur l'appréhension de la gloire de Dieu. « Terribilis est lucus iste », s'écrit Jacob au sortir de son songe. « Que ce lieu est terrible, ce n'est rien de moins que la porte du ciel », dit-il. Et pour bien signifier et rappeler l'espace sacré qu'est ainsi devenu le lieu de sa couche, le patriarche élève une pierre qu'il va oindre, donc un dolmen, et change aussitôt le toponyme de cet endroit en Bethel, qui veut dire « maison de Dieu ». La sacralisation d'une chose ou d'un espace ou du temps est ainsi liée à la phénoménologie de l'esprit, c'est-à-dire aux processus internes qui régissent le fonctionnement de notre intelligence lorsque celle-ci est affectée par la conscience d'être en présence de la gloire de Dieu. Ainsi, selon qu'elles incarnent et reflètent des perfections divines comme l'existence en soi ou le beau en soi, etc., les choses de ce monde revêtent un caractère sacré au regard de la conscience religieuse de l'homme. Par exemple, en accomplissant la partition téléologique que leur dicte leur nature, les choses, comme en témoignent les psaumes, sont perçues par l'homme comme étant les chantres inspirés de la création. Ainsi s'exclame le psalmiste, psaume 18, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. » Par conséquent, en étant ce qu'elles sont, ou bien simplement par le fait même d'exister, les choses de ce monde racontent en elles-mêmes quelque chose de sacré, la gloire de Dieu, c'est-à-dire la bonté du Créateur qui leur donne d'être et d'exister. Mais contempler Dieu dans le miroir des choses peut aussi conduire au panthéisme, c'est-à-dire à la divinisation de la nature, comme cela est déjà arrivé dans certaines religions antiques. Et là vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. En effet, si j'ai pris le soin de préciser ce préambule, c'est parce qu'il peut arriver la même chose pour le prêtre. Pour le prêtre dont la sacralité peut également conduire certains fidèles à idolâtrer sa personne ou, par réflexe contraire, opposé, à assimiler l'exercice de son sacerdoce à une simple fonction nécessaire à la vie de l'Église. Dans ce dernier cas, on dénie alors au prêtre toute transcendance, et par conséquence logique, toute autorité, particulièrement au sein d'une société devenue hyper-féminisée en raison d'une crise morale et culturelle de la masculinité. Dès lors, pourquoi des femmes ne pourraient-elles pas exercer les fonctions qu'accomplissent les prêtres ? Ne serait-ce pas là, après tout, le nouveau progrès d'une société en marche, à l'image et à la ressemblance d'une nouvelle église en synode ? En vérité, en vertu de son ordination sacramentelle, le prêtre n'est pas seulement un autre Christ. Il est aussi l'icône d'une paternité céleste. Plus exactement, en étant alter Christus, le prêtre, à la suite et à l'exemple de Jésus, a pour mission de révéler la bonté du Père, particulièrement à travers l'œuvre des sacrements, qui manifeste sa gloire dans l'âme des fidèles. Ce faisant, le prêtre incarne et reflète en lui-même une perfection divine purement intelligible et qui est celle de la paternité divine. Ainsi, tout ce qui fonde la sacralité du prêtre repose sur la grâce de son ordination sacerdotale en vertu de laquelle le prêtre est lui-même existentiellement sacrement de la paternité divine. C'est précisément pour cette raison que l'on appelle à juste titre le prêtre Monsieur l'Abbé, Abba, ou bien Mon Père. Et lorsque le Christ, par hyperbole, nous dit n'appeler personne Père, donc y compris nos propres parents, et oui, c'est bien pour nous faire comprendre que toute paternité humaine, qu'elle soit biologique ou spirituelle, est appelée à s'exercer selon la norme exclusive de la paternité divine. À plus forte raison, lorsque cette paternité s'exerce dans l'ordre de la grâce, comme c'est effectivement le cas pour le prêtre qui demeure un homme. Dès lors, comment distinguer dans le prêtre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas? Eh bien, je dirais de la même manière qu'on peut distinguer dans la nature ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Et pour vous conduire à faire vous-même cette nouvelle corrélation critique, je vais m'appuyer sur un texte de saint Paul aux Romains, au chapitre 1, tout au début, qui précisément fustige l'idolâtrie dont les païens se sont rendus coupables. Voici le texte. « Ce que l'on peut connaître de Dieu, dit l'apôtre, est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. » Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuse, puisque malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre des idoles représentant l'être humain périssable, ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. » Fin de citation. À travers ce passage, saint Paul nous présente 5 principes normatifs d'une authentique théodicée, c'est-à-dire d'une connaissance naturelle de Dieu fondée sur le principe d'altérité qu'offre la création. Ces 5 principes, en quelque sorte, constituent la Torah de ce premier livre qu'est la nature et à travers lequel nous sont révélés le fait de l'existence de Dieu et quels sont ses attributs essentiels. Et c'est à la lumière, écoutez bien, de ces 5 principes que nous pourrons également saisir les 5 principes normatifs de la sacralité du prêtre. Selon l'apôtre, en effet, l'existence de Dieu est clairement déductible à partir des œuvres de sa création, car celles-ci nous permettent d'induire une certaine idée de sa puissance éternelle. 1. De sa divinité. 2. De son incorruptibilité. 3. De la gloire qu'on doit lui reconnaître. 4. Et de l'action de grâce qu'on doit lui prodiguer. 5. La sacralité du prêtre repose ainsi, premièrement, sur la puissance éternelle de Dieu, car sa paternité s'exerce précisément dans l'ordre de la grâce. Elle est une paternité spirituelle ordonnée à connaturaliser les âmes à la vie intime de la Trinité et à la société surnaturelle que forment les saints. Et passer ainsi des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, comme le dit saint Pierre, implique la même puissance divine qu'exige le passage du néant à l'être. Le célibat du prêtre est alors le signe de cette paternité purement intelligible. C'est pourquoi chacun doit se garder de revêtir le prêtre des catégories sociologiques du monde dans lequel nous vivons. Par exemple, de nombreux catholiques souhaiteraient que les prêtres puissent se marier, sous prétexte que le mariage est une valeur en soi dont les prêtres seraient injustement privés. Or, le célibat sacerdotal est également une valeur en soi. Il n'est pas le lieu ce soir d'en développer tous les aspects. Je rappellerai seulement que la règle du célibat consacré est précisément ordonnée à l'exercice de la paternité spirituelle du prêtre, dont le destinataire est potentiellement tout homme. Le célibat consacré est ainsi le signe que le prêtre n'est pas le père de quelques-uns, mais d'une multitude. À ce titre, le célibat offre aussi au prêtre la possibilité idéale d'être tout à tous. La sacralité du prêtre repose aussi, deuxièmement, sur la divinité de notre Père Céleste. C'est un corollaire du premier principe. Comme je l'ai déjà expliqué, le prêtre est en lui-même le sacrement de la paternité divine. La bonté paternelle qu'il doit par conséquent s'efforcer d'incarner ou de refléter n'est donc pas celle de nos pères humains, mais celle de Dieu. Celle de Dieu. Par conséquent, ne demandez pas aux prêtres de correspondre à vos propres catégories psychologiques en lui demandant sans cesse d'être le père idéal que vous aimeriez enfin rencontrer ou bien retrouver. La sacralité du prêtre, encore, troisièmement, repose sur l'incorruptibilité de Dieu. La paternité que le prêtre est donc appelé à exercer ne peut en aucun cas se laisser gouverner par le chantage affectif des uns et des autres. Oh, je dis peut-être les choses crûment, mais combien de fois ne rappelle-t-on pas sournoisement au prêtre qu'il est précisément un père, afin de le faire céder sur telle ou telle chose, en soi non négociable? Ainsi, tel prêtre devrait-il fermer les yeux à l'égard de telle ou telle situation conjugale pécamineuse, ou bien prendre parti dans telle ou telle autre situation? Par conséquent, n'habillez pas le prêtre, pour ainsi dire, de vos propres catégories politiques, morales ou juridiques, car le prêtre demeure le gardien de la communion ecclésiale, même si cette vigilance doit parfois et concrètement s'exercer à l'encontre de nos revendications immédiates, pour ne pas dire parfois des caprices. Quatrièmement, la sacralité du prêtre repose sur la gloire de Dieu. En ce sens, la paternité spirituelle du prêtre doit véritablement conduire les fidèles à glorifier la paternité de notre Père Céleste, et non celle du prêtre. Et là, je m'adresse spécialement à mes frères prêtres ainsi qu'à moi-même, qu'il est ô combien facile, à travers nos propres réussites, de considérer l'œuvre du Seigneur comme notre œuvre propre. Si nous succombons à cette tentation narcissique, nos paroisses s'enferment ensuite dans un élitisme et un égocentrisme pastoral, où chacun vit sa foi comme s'il était seul au monde. Par conséquent, pour vous, chers frères et sœurs, de votre côté, n'encouragez pas vos prêtres à devenir les pères d'une clientèle. Aucun prêtre, en effet, n'est appelé à travailler pour son compte personnel. N'habillez donc pas les prêtres de vos propres catégories ecclésiologiques, anté-conciliaires ou post-conciliaires. Comme nous l'affirmons au sujet du mystère du Christ, le mystère de l'Église et le mystère du prêtre demeurent les mêmes, hier, aujourd'hui et à jamais. Enfin, la sacralité du prêtre repose sur l'action de grâce qui revient en toute justice au Seigneur. Si la paternité du prêtre est sacrée, c'est précisément afin qu'elle puisse être réellement le signe et le don d'un tout autre Père dont la miséricordieuse bonté s'exerce au bénéfice de vos cœurs et ceux, quels que soient les abîmes de vos plus secrètes détresses. Aussi, la sacralité du prêtre doit-elle conduire les fidèles à l'action de grâce, particulièrement à travers la célébration de l'Eucharistie, qui, par excellence, est l'action de grâce des fils de Dieu. C'est pourquoi, ultimement, ne revêtez pas le prêtre de vos propres catégories liturgiques, charismatiques, traditionnalistes, progressistes, etc. Exigez d'eux seulement ce que demande l'Église notre Mère, qui, dans le mystère de sa constitution divine, demeure instruite et conduite par l'Esprit Saint. En somme, pour conclure, je dirais que la sacralité du prêtre, comme expression de la paternité divine qu'il a mission d'exercer, doit demeurer dans l'immanence de nos sociétés humaines le signe d'une transcendance divine qui doit nous pousser vers les réalités du ciel, hors de nous-mêmes, c'est-à-dire hors de la matrice intellectuelle que représentent nos propres catégories. En définitive, c'est à une connaissance authentique de notre Père du ciel que nous conduit la sacralité du prêtre. Comme il faut alors défendre la sacralité de toute vie humaine, particulièrement en ce moment, vous le savez bien, ainsi que la sacralité de toute victime, n'ayez pas peur de votre côté de défendre la sacralité du prêtre aux yeux du monde, et ce, quelles que soient les atrocités commises par quelques-uns. Et surtout, surtout, exigez de vos prêtres qu'ils vous mettent en présence du sacré, c'est-à-dire qu'ils vous instituent personnellement dans une relation filiale et transcendante avec notre divin Père des cieux, dont Jésus ne cesse jamais de louer la bonté.